Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Stéphane Pedrazzi accueille les experts.
Jeudi 11 avril, au programme des experts ce matin, le portrait de la jeunesse à travers la dernière grande enquête du Cercle des économistes. 60 000 jeunes âgés de 18 à 30 ans ont été consultés sur les thèmes de l'égalité des chances, de la santé et de l'action citoyenne. Les résultats sont un peu inquiétants, notamment en matière de discrimination et de santé mentale. On va y revenir dans un instant. On parlera des pistes d'économie du gouvernement pour réduire le déficit. Cela aura forcément un impact sur la croissance, nous dit l'OFCE, qui a fait ses calculs. Le PIB va être amputé de 0,2 points cette année et de 0,6 l'an prochain. Cette question forcément un peu polémique, faut-il encadrer le droit de grève ? Le Sénat s'est prononcé en faveur d'un encadrement, mais est-ce forcément la bonne méthode et surtout le bon timing à l'approche des Jeux Olympiques ? Et puis comme chaque matin, la carte blanche de nos invités, chacun va défendre un sujet qu'il a choisi et nous expliquera pourquoi. On parlera du rapport Étincelle avec Anne-Sophie Alsif, on parlera du rapport du COR, l'impact de la réforme des retraites avec Eric Heyer et le coût du vieillissement avec Jean-Hervé Lorenzi. Et sachez que vous pouvez aussi participer au débat, envoyez vos questions, vos commentaires sur X, anciennement Twitter, @StephPedrazzi. Je me ferai un plaisir de relayer vos questions auprès de nos invités. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Je les ai déjà un petit peu présentés dans le sommaire. Anne-Sophie Alsif, chef économiste du cabinet d'audit BDO France. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chroniqueuse dans le magazine Forbes. Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi président des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Ça se passera début juillet. Et Eric Heyer, bonjour. Bonjour. Directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, co-auteur de Une autre voie est possible vers un modèle social écologique. C'est aux éditions Flammarion, Champ Actuel. 74% des jeunes âgés de 18 à 30 ans affirment avoir fait l'objet de discrimination. 80% considèrent que les réseaux sociaux aggravent les discriminations et le harcèlement. Et 50% affirment avoir déjà cherché de l'aide pour leur santé mentale. Ce sont quelques-uns des chiffres tirés de la grande enquête sur la jeunesse réalisée par le Cercle des économistes. Jean-Hervé Lorenzi, d'abord, quels sont les principaux enseignements et surtout, pourquoi avoir choisi ces trois thèmes ?
Le thème, tout ça, c'est en préparation d'Aix, hein, parce que au fond, je crois que mes deux camarades et vous aussi, vous serez d'accord sur le fait que un pays, c'est largement sa jeunesse, bien, même si les seniors sont très importants, et c'est sa jeunesse, que c'est très difficile de savoir ce que pense réellement la jeunesse. On a des sondages, notamment sur leur, disons des sondages sur leur taux de participation aux européennes, sur le fait qu'ils sont, semble-t-il, très largement influencés par le RN. Tout ça est quand même, à part ça, on ne connaît pas bien ce qui se passe. Donc ce que nous avons fait, et je veux dire, je trouve que c'était très utile, c'était non pas un sondage, pas du tout des sondages, ce sont des conversations qui ont eu lieu pendant 2 mois avec 60 000 personnes, 60 000 jeunes, donc de 18 à 30 ans, qui couvrent à peu près tous les types de population, 50% filles, 50% garçons. Enfin, tout ça a été relativement bien fait. Et ce qui en sort, c'est au fond tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire une sorte d'inquiétude sourde sur le présent. Discrimination, ils ne se sentent absolument pas représentés par les politiques. Je crois qu'il y a 12% des jeunes qui se sentent représentés par le président de la République, qui lui-même n'est pas un vieux. Donc c'est assez curieux, comme je trouve, comme corrélation. On aurait pu imaginer qu'il trouve qu'il était bien.
C'est 64% des jeunes qui ne se sentent pas représentés par qui que ce soit en politique, et 78% considèrent que leur voix ne compte pas dans les décisions.
Voilà, donc c'est très important, alors que on n'arrête pas de parler de réchauffement climatique, de choses qui les concernent, de retraite, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et donc il y a ce regard qui fait que j'espère que à un moment ou à un autre le gouvernement, les pouvoirs publics vont mettre sur le dossier de la pile, vraiment au niveau le plus important, ils vont mettre cette affaire de la jeunesse au cœur des discussions. Il y a un truc qui est très très étonnant que vous n'avez pas cité, mon cher Stéphane, c'est que 84%, non, c'est bien, c'est ce qui a marqué.
Oui, oui, des jeunes estiment que le sport est un moteur d'inclusion sociale.
Non, c'est soyez 84%. Un peu optimiste. 84% disent qu'ils considèrent que la réussite de leur vie, ça n'est pas uniquement l'argent. Ça, c'est formidable. Alors, c'est normal, à 20 ans, on est moins sensible que le senior qui tient sa retraite. C'est clair. Mais 84%, c'est quand même assez formidable. Donc, au fond, si je devais résumer, c'est un regard assez négatif sur leur situation actuelle. Vous vous souvenez d'ailleurs que pendant la Covid, un jeune sur trois expliquait qu'il avait supprimé un repas sur deux.
Oui.
Donc c'était incroyable. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème majeur de la prise en charge des jeunes, et notamment sur leur insertion sur le marché du travail. Et par ailleurs, il y a cette espèce de générosité. Alors, c'est peut-être le propre de la jeunesse, mais 84% des jeunes qui considèrent que la vie, c'est pas uniquement l'argent, c'est pas mal.
Moi, j'ai mis ce chiffre en avant et ça me frappe, Anne-Sophie Alsif, 74%, c'est-à-dire 3 jeunes sur 4 qui ont fait l'objet de discrimination. Mm. C'est considérable.
Alors, c'est considérable. C'est vrai que la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même beaucoup plus de campagnes et donc on en parle beaucoup plus qu'avant. Donc, peut-être que ça existait aussi encore plus avant, mais c'est vrai que c'était beaucoup moins mis sur le devant de la scène et la parole se libère plus aussi avec les réseaux sociaux. C'est vrai que ça peut être négatif, mais aussi positif. Donc, ça, il faut quand même le saluer. Après, c'est vrai qu'il y a vraiment une perception, une sensibilité qui est beaucoup plus exacerbée et une mobilisation sur ces questions. Donc, là aussi, c'est important. Et surtout, ce qui est important, c'est l'impact économique de ça. Parce que souvent, ce qui est très difficile, on le voit, il y a beaucoup d'économistes, notamment Anne Boring, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, sur la discrimination. Ouais. C'est un coût vraiment en termes de croissance, vraiment pour la société, et pas que les jeunes, hein, que ce soit tout type de discrimination, que ce soit les handicapés, les seniors, les jeunes. On voit qu'en Europe, et notamment en France, on est un des pays où on a fait le moins de travail là-dessus pour justement essayer d'avoir le moins de discrimination, notamment à l'embauche, et notamment en termes de diversification dans les postes, et notamment les postes à direction.
Eric, hier, on va parler d'argent. C'est pas la priorité chez les jeunes. On n'aurait pas du tout eu le même résultat aux États-Unis, j'imagine.
Je ne sais pas. Alors, non mais je pense qu'effectivement, et ça a bien été précisé avant, je pense que quand on est jeune, effectivement, c'est pas l'argent au début qui est le moteur de nos ambitions. On a envie de s'épanouir d'une autre façon. Et après, petit à petit, quand on commence à s'installer, on comprend que globalement, il y a quand même une situation financière qui est importante. Mais c'est vrai que ça corrobore un certain nombre d'autres analyses qu'on peut avoir aujourd'hui. Vous voyez. On parlait de grandes démissions pendant la crise sanitaire. En fait, en France, il n'y a jamais eu de grandes démissions, mais il y a eu beaucoup de démissions. Donc, c'était plutôt une grande rotation. Et il n'y a jamais eu autant de démissions en CDI. Et quand on regardait pour quelles raisons vous démissionnez pour aller chercher un autre poste ailleurs, c'était pas pour gagner plus d'argent.
C'était la quête de sens.
Et voilà. La première raison, c'était je veux d'abord un travail qui a plus de sens et je veux avoir des conditions aussi de travail peut-être un peu moins éprouvantes. Donc c'était pas je ne démissionne pas pour essayer de trouver. Donc oui, effectivement, on a l'impression que peut-être pendant cette période Covid, on a un tout petit peu changé de priorité. Bon, mais je serai quand même très prudent parce que ça peut revenir assez vite. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, alors qui est pas vraiment dans cette étude, c'est dans d'autres études de sociologues, c'est que globalement aujourd'hui, quand on pose la question, est-ce que tu veux être indépendant ou autonome, en fait, les jeunes d'aujourd'hui veulent plutôt être autonomes qu'indépendants. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important dans le rapport au travail, c'est-à-dire être indépendant, c'est monter sa boîte et finalement de rendre compte à pas grand monde, sauf à son client. D'accord. Être autonome, c'est je veux bien être dans une entreprise, je veux bien être dans un collectif, je veux bien, à un moment donné, avoir un chef qui me dit ce qu'il faut faire. D'accord. Mais je veux être autonome dans la façon d'y arriver. C'est-à-dire, je veux être autonome dans la façon géographique de faire cette histoire. Est-ce que je viens sur le lieu de travail ou est-ce que je le fais à distance? Je veux être autonome dans les horaires. C'est-à-dire, si je veux travailler tôt le matin ou tard le soir, laisse-moi. Je te rendrai des comptes, mais laisse-moi autonome dans la façon d'y arriver. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Ça va être très dur pour les managers aujourd'hui de gérer tout cela, de gérer des jeunes qui veulent être complètement autonomes, des personnes un peu moins moins jeunes qui veulent venir au travail. Mais je pense que là, aujourd'hui, les managers doivent se dire, c'est à nous à nous adapter aux jeunes plutôt que l'inverse. Sinon, eh ben, les jeunes vont aller voir ailleurs si finalement l'autonomie n'est pas plus verte et un peu plus importante dans d'autres pays.
Jean-Hervé, le fait que 6 jeunes sur 10, même un peu plus, ne se sentent représentés par personne en politique, est-ce que ce n'est pas inquiétant à l'approche des élections européennes?
Oui. En réalité, j'ai aussi regardé hier soir les... Alors là, ce sont des sondages très sérieux. Les sondages sont toujours sérieux, mais très, très actuels sur les élections. J'étais frappé de voir que finalement, le pourcentage de ceux qui, des jeunes qui ont décidé de voter est pas si éloigné que ça de l'ensemble de la population. Donc, je croyais que c'était beaucoup plus net, que les jeunes ne s'intéressaient pas du tout. Deux, il y a évidemment, pour le moment, un mouvement qu'on retrouve un peu partout, qui est le fait que le RN arrive en tête de manière très significative.
Derrière, y compris chez les jeunes.
Surtout chez les jeunes. C'est là où c'est le plus net. Donc c'est quand même, il faut essayer de trouver les solutions qui fassent qu'ils se sentent mieux. Ça correspond aux 50% qui, au fond, se sentent mal. Et je dois dire que il y a eu quelques efforts, mais il faut vraiment relever les manches, parce que vous avez quand même encore 1,5 million, enfin personne n'est tout à fait au clair, mais disons, de jeunes qui sont des NIS, qu'on appelle qui n'ont ni travail ni formation, qui sont dans leur immense majorité comme tout le monde, hein, ils sont comme nous trois, quand on était plus jeunes, et moi c'est encore plus loin, ils ont envie de travailler, ils ont envie d'avoir une vie normale, enfin cette idée que c'est volontaire de leur part est totalement stupide, et ça, pour le moment, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'approche, il n'y a pas du tout de... C'est l'espèce de mouvement qui, au fond, la France aurait assez d'atouts d'avoir une jeunesse un peu plus nombreuse qu'ailleurs. C'est formidable d'avoir une jeunesse quand même plus... C'est quand même plus, comment dire...
En matière de
pushing que d'avoir une jeunesse. Et franchement, on ne fait pas grand-chose pour cette jeunesse. Donc, c'est un appel... Cette étude, mais qui est complétée par ce que tu as dit, par bien d'autres études, c'est un appel vraiment au fait qu'il faut que le gouvernement considère que c'est... Je crois qu'il y a un ministre de la jeunesse, non ? Je ne suis pas sûr. Peut-être.
Ah, Anne-Sophie Elstif ?
Oui, par rapport aux situations de déclassement et de discrimination, ce qui est aussi assez important, on l'a dit, hein, sur l'autonomisation, c'est que ça dépend aussi de la qualification et du type d'emploi. Comme vous avez un aspect sur les réseaux sociaux, vous montrez, vous mettez beaucoup plus en scène votre vie, vous avez beaucoup de jeunes qui... non pas, lorsque vous n'avez pas un emploi, on va dire, plutôt intellectuel et surtout pour tâche, c'est très facile à ce moment-là, en effet, de faire du télétravail, d'avoir des horaires flexibles, etc. Tous les emplois ne sont pas comme ça. Et donc, pour les emplois moins qualifiés, vous n'avez pas du tout cette autonomie. Et donc, cet aspect de discrimination, en tout cas d'inégalité, se ressent beaucoup
plus
par rapport à 30-40 ans où il n'y avait pas le télétravail et toutes ces choses. Et donc, globalement, même si vous aviez des qualifications différentes, vous aviez un fonctionnement de travail dans l'entreprise où tout le monde venait à la même heure, partager les mêmes choses, qu'on voit beaucoup moins. Donc il y a aussi ce sentiment d'augmenter et d'avoir une augmentation des inégalités dans la jeunesse.
Et on signale que les conclusions de cette enquête du Cercle des économistes feront l'objet de groupes de travail lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence début juillet.
Oui, mais au fond, là, beaucoup de modestie, parce que ce sont des groupes intéressants, mais par nature limitée, 60 000. En fait, ce n'est pas 60 000 qu'il y a eu. Hier soir, j'ai revérifié. Il y a eu 90 000 jeunes qui ont participé aux conversations. Ce qui veut dire que ce n'est pas le génie du service économiste, c'est le fait que des jeunes ont envie de s'exprimer sur à peu près tous les trois sujets que vous avez évoqués. Mais les recommandations, c'est par des jeunes qui ne sont pas aussi représentatifs. Donc, il y aura... On va quand même essayer de diffuser cette description de la jeunesse française, qui est beaucoup plus large que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et de la diffuser auprès de tous les gens qui vont intervenir, pour qu'ils, dans leur tête, ils se disent, je traite ce sujet, mais il se trouve que je dois aussi avoir cet aspect intergénérationnel qui est fondamental.
Ça n'aura échappé à personne, l'heure est aux économies, on va en parler avec vous, Eric Heyer. Vous avez publié vos perspectives économiques. Les mesures d'économie ont pour objet de faire réduire le déficit, mais ça aura un impact sur la croissance. Vous l'avez chiffré, 0,2 points de croissance en moins cette année et 0,6 l'an prochain.
Oui, alors, il faut... Oui, le 0,2, c'est les 10 milliards qui étaient annoncés. Alors là... pour être complètement franc, j'ai pas compris hier s'il y avait encore 10 milliards à attendre ou si c'était ces 10 milliards.
Alors moi, c'est
pas...
ce que j'ai compris, c'est qu'il allait falloir trouver 10 milliards d'économies supplémentaires.
En plus des 10 milliards. Bon, enfin voilà. Donc du coup, il va falloir encore revoir nos prévisions.
Oui, les 10 milliards, c'était pour le 4-9, et il va falloir revenir au 4-9-5.
Ok, donc c'est pas 10 milliards, donc ça sera 20 milliards, et donc mais les calculs d'hier, c'était uniquement sur les 10 milliards qui étaient déjà annoncés. On a fait notre conférence de presse avant ces annonces-là.
Et vous dites, c'est sur les 10 milliards, 7 ont un impact direct sur la croissance.
Alors effectivement, on a essayé, mais alors c'est très compliqué parce que entre nous, celui qui est capable de dire précisément où sont ces 10 milliards, en tout cas nous on l'a pas trouvé, et donc on a essayé précisément et en discutant aussi avec les administrations pour essayer de pas trop se tromper. Donc effectivement, sur les 10 milliards, il y en avait à peu près 7 milliards 4 qui étaient des vraies économies, d'autres c'était un peu moins considéré comme des économies, et donc avec pas d'incidence sur l'activité. Et donc ensuite, bah, vous voyez, on n'a pas fait non plus des choses extraordinaires. C'est que, vous voyez, quand vous enlevez 7 milliards et demi, et ben, globalement, il y a bien quelqu'un qui perd cet argent-là. Et donc, à court terme, en tout cas, et ben, ça a une incidence sur l'activité. Ben, ça a une incidence avec des, ce qu'on appelle des multiplicateurs. Vous voyez, ben, le multiplicateur, nous, ben, ils sont pas extraordinaires. On les a mis exactement à 0,8. Vous voyez, donc, c'est-à-dire quand vous, vous voyez, il y a un débat chez les économistes entre est-ce que les multiplicateurs sont importants ou pas. Vous voyez, si vous êtes un ricardien, vous pouvez considérer comme Jean-Marc Daniel, que les multiplicateurs peuvent être même négatifs. C'est-à-dire quand vous faites des économies, c'est bon pour la croissance économique. Le raisonnement serait que le citoyen, voyant que les déficits baissent, eh ben, reprend confiance et donc consomme. Ah, oui, je pense que là, aujourd'hui, il n'y a que Jean-Marc Daniel pour avoir ce type de raisonnement-là, des multiplicateurs négatifs. Voilà, mais on peut se poser la question, et de l'autre côté, des keynésiens qui pourraient monter jusqu'à quasiment 2 de multiplicateurs. C'est-à-dire quand vous enlevez 1 euro, bah, ça fait 2 euros d'activité en moins. D'accord. Bon, avec 0,08, vous voyez, on est globalement ce que nous disent les modèles, aujourd'hui, en tout cas notre modèle, c'est-à-dire c'est relativement modeste. D'accord. Mais donc, à court terme, vous arrivez à faire baisser vos déficits, mais attention, une partie bah, va dans la destruction d'activité et donc un peu moins de recettes, et donc vous êtes un peu déçu dans la réduction des déficits par cela. Et moi, ça, je pense que, vous voyez, cette histoire de multiplicateur va revenir au devant de la scène. Ça a été extrêmement discuté entre 2011 et 2014. On a fait une erreur gigantesque. Il faut se souvenir hein, de le FMI en 2013 avec son économiste Olivier Blanchard qui a dit ouais, désolé, nous nous sommes trompés sur la valeur des multiplicateurs. Mmh. Donc en gros l'histoire c'est ils avaient évalué ces multiplicateurs à 0,2. D'accord. Et donc faire une austérité finalement, ne casser pas trop la croissance. Ils sont pas allés jusqu'à chez Jean-Marc Daniel -0,2, mais à 0,2. Et ensuite, après coup, on dit ah désolé, c'était pas 0,2, c'était 1,3. Et donc quand vous avez des multiplicateurs aussi élevés, bah quand vous faites de l'austérité, ça casse la croissance, ça casse les recettes, et donc les déficits bah, ne se réduisent pas. Et donc vous voyez ça, cette discussion, et on sait pourquoi les multiplicateurs sont élevés, d'accord. Et ben bah, il va falloir la voir, sinon attention, on va être très déçu sur la réduction des déficits malgré les efforts qu'on va demander aux Français.
C'est intéressant ce que vous dites, et vous citez Jean-Marc Daniel, lui nous explique que les hausses d'impôts seraient bien plus dommageables pour notre économie parce que ça casserait la croissance.
Alors, c'est vrai que nous, dans nos prévisions, et on avait en effet des prévisions qui n'étaient pas non plus aussi optimistes que le gouvernement, la grande problématique, c'était quand même la prévision de croissance économique qui était à 1,4% dans le dernier PLF, qui était quand même dans les hypothèses les plus hautes, hein, tous les consensus, on n'était pas du tout à ces niveaux. En général, vous avez 0,2-3 points au-dessus du consensus, ce qui est normal parce que c'est le gouvernement, mais là, on était quand même très au-dessus. Donc c'est vrai que là, il vient d'être voté et déjà, on passe de 1,4 à 1%. Et vraiment, le moteur et ce qui est vraiment central pour comprendre comment va se faire le déficit, c'est vraiment vos hypothèses de croissance économique. Donc c'est vrai que nous, on était dès l'année dernière à 0,8. Le 1,4, c'était vraiment intenable. Donc déjà, c'est normal qu'on ait ce déficit beaucoup plus important. Deuxième élément, comme en effet, on a moins de croissance économique, eh bien, en effet, moins de recettes. C'est ce qui s'est passé. Hein, et donc, un déficit beaucoup plus important. Après, en effet, c'est vrai sur les multiplicateurs, mais ce qui est aussi vrai, c'est la manière dont est structurée la croissance française. La croissance française, son premier moteur, c'est la consommation. Par rapport à d'autres pays, comme par exemple les pays du Nord ou l'Allemagne, qui sont plus dépendants du commerce extérieur. Et donc, quand vous avez ce modèle de croissance, eh bien, en effet, toucher aux dépenses publiques, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est beaucoup plus récessif, parce que, comme on l'a dit, c'est tout de suite du revenu en moins. Quand on parle des dépenses publiques, l'INSEE a fait une très bonne note là-dessus en disant qu'on est un des pays les plus égalitaires au monde, parce qu'on redistribue, et donc la majorité des impôts que vous payez, c'est du du revenu qui est redistribué aux Français. Donc si vous attaquez à ça, c'est le problème. Et puis l'autre élément, c'est sur les économies. Hein. C'est sûr que le gouvernement veut toucher plutôt à ce qui est sur le moyen long terme pour justement pas essayer d'avoir trop d'impact à court terme. Mais on voit... Hein, recherche, éducation, transition écologique. C'est vrai qu'on se dit, si ça va mieux, on pourra remettre l'argent dessus. Mais
pour l'instant,
ils font
les frais des mesures d'économie.
Exactement, en termes de croissance potentielle, qu'on soit à ces postes qui créent beaucoup de valeur ajoutée.
Jean-Hervé Lorenzi, faut faire attention, si j'ai bien compris, aux mesures d'économie, parce qu'on ne va pas guérir, mais on va tuer le malade.
Oui, la formule est bonne. La formule est bonne. Moi, je suis très admiratif de ce qu'a fait l'OFCE. Et j'ai trouvé, en plus, qu'ils étaient très prudents, parce que c'est vrai que c'est pas excessif. Vous savez, toute cette affaire hein, est instrumentalisée politiquement. Les 4,9% qui étaient prévus, c'était pas formidable sur le plan de l'équilibre budgétaire. Donc, je veux dire, bon, c'est vrai que l'augmentation très brutale de 0,6, mal présentée, cachée ou pas cachée, enfin, moi, j'en sais rien, et à mon avis, on ne le saura que dans quelques années, a donné le sentiment à toutes les oppositions possibles et imaginables d'expliquer que désormais, la France était au bord du gouffre, etc. Moi, le bord du gouffre, et je crois que on est tous les trois d'accord, c'est quand même le fait d'avoir un ralentissement de la croissance très significatif. Juste un mot, Jean-Marc Daniel est un ricardien, on va l'appeler ricardien de droite, et il y a des ricardiens plus raisonnables. Hein, donc, plus raisonnables. Mais tout ça pour dire que toute cette affaire est une affaire de communication. Parce que il faut absolument montrer aux agences de notation que c'est pas la fin du monde, qu'on a tout ça en main. On n'a pas le dispositif en main quand on est à 5% déficit. Donc tout ça, c'est du pipeau de première, mais il se trouve qu'on a besoin de s'agiter sur le sujet. Je trouve que les perspectives qui ont été évoquées par Eric et par Altif il y a 10 secondes sont extrêmement dangereuse sur le fait que si on plonge, on commence à plonger dans une quasi-stagnation dans notre pays, vous allez voir les résultats de juin, les européennes, vous allez voir ce qui va se passer dans le pays. Moi, je suis très inquiet, puisque c'est de la politique, ça va retomber sur la politique. Et je trouve qu'il faut, le gouvernement devrait être extrêmement prudent avant de se lancer dans ces opérations qui, une fois de plus, sont essentiellement de la communication. Qu'il réforme, qu'il lance une vraie réforme du fonctionnement de l'État que tout le monde attend depuis 30 ou 40 ans.
C'est-à-dire... Mais pas de concours Lépine des mesures d'économie, comme le disait Clément Beaune.
Je vais vous dire, je vais supprimer 4... Alors, c'est assez simple, d'ailleurs, sur le fond. Comme on ne va pas pouvoir supprimer toutes les bagnoles qui sont dans les cours des ministères, parce que c'est de ça dont il s'agit, il va y avoir évidemment un prélèvement sur la protection sociale. C'est là-dessus qu'on va aller. Et l'intervention d'Attal l'autre jour est une intervention qui n'aurait même pas été envisageable depuis 20 ou 30 ans. Donc on va y revenir, mais c'est très important de voir que ce moment précis doit être traité de manière politique aussi, et pas exclusivement essayer de faire un peu de communication pour les uns pour les autres.
On continuera cette discussion juste après la pause. On parlera également de l'encadrement du droit de grève. À tout de suite.
Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Stéphane Pedrazzi accueille les experts.
Avec toujours nos trois experts en plateau, Anne-Sophie Alsif, chef économiste du cabinet d'audit BDO France, Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes, et Eric Ayer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Je vous donne quelques réactions sur Twitter. D'abord, une réaction à ce qu'on disait sur les jeunes. Les jeunes ont été victimes de l'enfermement honteux des covidistes, nous dit les amis européens sur Twitter. Et puis un autre commentaire qui va sans doute alimenter nos réflexions. Eric nous dit, comme les prélèvements que l'État assure sa solvabilité, il existe un ratio qui a du sens. Dette publique sur montant des prélèvements obligatoires, on obtient la comparaison d'une dette avec un revenu. Eric, décryptage.
Alors, je ne suis pas sûr d'être d'accord, et, ou alors je n'ai pas bien compris. Non, justement, une dette, c'est un stock, on est d'accord ? C'est l'ensemble des déficits qu'on accumule pendant des années. Donc, un stock, il faut le comparer à un autre stock, et pas à un flux, et donc pas à un revenu. Donc déjà, le comparer au PIB, qui est un flux, c'est à mon sens...
Ça n'a pas trop de sens.
Une hérésie.
C'est mélanger des pommes et des bananes. Alors,
en plus, mettre une règle sur un ratio qui n'a aucun sens... Enfin, moi, j'ai appris en première année de statistique, d'accord, qu'il fallait faire stock sur stock ou flux sur flux. D'accord. Donc, le stock, au contraire de dette, il faudrait le faire sur... Puisque, allez, la maturité de la dette publique, c'est 8 ans et demi, on pourrait faire sur 8 ans et demi de PIB. Alors là, d'un coup, votre dette, elle est divisée par 8,5, hein, d'accord ? Et donc, on n'aurait plus beaucoup de problèmes. Donc, non, le remettre sur un autre déficit... Non, encore une fois, la dette, là aussi, le deuxième élément qui m'agace sur ce ratio dette sur PIB, c'est qu'on regarde que le passif, ce qu'on a dépensé, et on ne regarde pas est-ce qu'on a accumulé des actifs en face. Vous voyez, jamais on fait ça, quoi. On devrait regarder au moins une dette nette. Est-ce qu'il y a des actifs à mettre en face de ce passif ? Et là, je renvoie cet auditeur au site de l'INSEE, et qui tape compte des administrations publiques, d'accord ? Et il verra le passif, c'est 110 points de PIB, et il regardera les actifs qu'il y a en face. Et il aura peut-être une bonne surprise, et il verra qu'il y a plus d'actifs que de passifs, et donc les administrations publiques ont des actifs nets positifs, d'accord ? Ça va plutôt le rassurer, je pense.
Je peux juste rajouter quelque chose, parce que moi j'entends souvent, ça ne veut pas dire que la dette c'est un bien, c'est pas du tout ce que dit Eric d'ailleurs, mais il y a cette espèce de cri de désespoir de tel ou tel, je ne cite personne, qui disent l'enfant qui naît à 25 000, ou je ne sais pas les chiffres, on oublie de dire en même temps que papa et maman ont acheté un bien immobilier, que ce bien immobilier a pris de la valeur, donc on ne fait jamais la comparaison actif-passif, et je trouve que tu remets bien les choses en place.
Anne-Sophie, est-ce qu'on va réussir à éviter les hausses d'impôts, à votre avis ?
Alors, en tout cas, le gouvernement n'est pas sur cette ligne. Alors, la Cour des comptes, déjà dans son rapport, parle de 3 milliards de hausses d'impôts un peu déguisées cette année, avec des niches qui seraient rabotées, avec des subventions ou des aides qui seraient moins importantes que prévues. Donc, on va sûrement y aller, mais pas des hausses d'impôts, par exemple, de TVA, d'IS, d'IR, enfin, des hausses massives. En tout cas, je pense que politiquement, ce sera un petit peu compliqué. Peut-être qu'on y sera forcé, mais on n'est pas encore sur ce chemin. Quand on dit, en effet, sur la dette, je pense que la question de votre auditeur, c'était aussi l'idée de dire, bah voilà, on paie beaucoup d'impôts, alors pourquoi on a cette situation budgétaire par rapport notamment à nos partenaires européens ? Et par exemple, on voit la situation de l'Espagne, on peut quand même apprécier qu'ils ont eu une bonne gestion, et pour l'instant, en termes de finances publiques, ils ont un 3% qui pourrait avoir lieu, donc de déficit public, dès l'année prochaine. Pareil, l'Italie, même s'ils sont plus endettés que nous, vont être en excédent primaire dès l'année prochaine. Donc je pense que la question, c'est plus, alors qu'on paie quand même beaucoup d'impôts et qu'on est censé bien gérer, pourquoi on n'a pas des résultats qui s'approchent de nos partenaires européens ou une meilleure gestion ? Je pense que c'est ça qui est sous-jacent. Et là aussi, il faut quand même le rappeler, parce qu'on critique beaucoup, mais on oublie vite, on a été dans le Covid, un des pays, le gouvernement a eu une action des plus généreuses, que ce soit pour les ménages ou pour les entreprises, que ce soit en termes d'énergie ou en termes de conserver l'emploi. Et donc forcément, c'est normal à un moment de le payer quand vous prenez 20 points de dette sur PIB, c'est ce qu'il y a eu également dans les autres pays, mais nous tout de même plus. Donc c'est vrai que ça nous a permis de ne pas être en récession, et là aussi il faut regarder ce qui est en face, mais aussi le fait de la croissance. On n'a pas été en récession l'année dernière, on a eu un des taux de croissance les plus élevés de la zone euro, donc ça a payé. Alors bien sûr, c'est du contrefactuel, donc c'est plus difficile à évaluer, l'Allemagne était en récession, et donc forcément ça a un coût qu'aujourd'hui on paie.
Éric, vous n'avez pas l'air complètement d'accord.
Non, parce que je ne suis pas sûr d'avoir les mêmes chiffres. Le déficit italien cette année, enfin en 2023...
Non, l'année prochaine en excédent primaire.
Non, mais cette année, en 2023, il est de 7,2%. Non, mais 7,2%.
Oui, l'année là prochaine. Je parle pour 2025, pour le solde primaire. Je ne parle pas de
2025.
En 2023.
Ah ouais,
attendez, 2025. C'est ce que je disais l'année prochaine.
Oui, mais pour l'instant, il a complètement surpris. Il est de 7,2%.
Oui,
d'accord, donc il n'est pas du tout en primaire. Non, mais d'accord. Mais
je parlais du solde primaire pour
2025. Du coup,
oui, mais du coup, on parle de solde primaire.
Non, mais oui, d'accord. Non, mais alors, ça, c'est le premier point.
C'est
le premier point.
Le deuxième point
sur lequel je ne suis pas du tout d'accord, c'est qu'on aurait plus dépensé en France qu'ailleurs. Alors, ok, je vous ai laissé parler.
1,5.
Pour réagir aussi. Mais regardez, en 2019, l'Allemagne était en excédent de 1,5. Aujourd'hui, il est en déficit de 2,1. 1,5, 2,1, 3,6% de dégradation de leurs finances publiques. La France, 2,4, 5,5. 3,1. Donc, moins de dégradation en France.
Parce qu'on a eu de la croissance.
De déficit. L'Italie, passée de 1 1,4 à 7,2, quasiment 5 ans. L'Italie a fait une impulsion budgétaire gigantesque. Ils ont la croissance, c'est parce qu'ils ont mis à peu près, là, les chiffres sont sortis, 200 milliards dans un super bonus pour la rénovation. Ils l'ont fait. Ouais, c'est l'Italie qui a fait la plus grande impulsion budgétaire. Et quand vous regardez tous les pays, en gros, tous les pays ont vu leur dégradation, leur situation financière. Et la France, pas plus qu'un autre pays. Pas plus qu'un autre pays. Regardez, moins que l'Allemagne. Après, vous pouvez dire, il y a eu moins de croissance. Mais d'accord. Mais l'impulsion budgétaire, quand vous regardez l'impulsion budgétaire, le déficit structurel, c'est bien plus dégradé en Allemagne qu'en France. Regardez juste les chiffres et vous verrez qu'il n'y a pas eu plus d'impulsion. Donc, c'est pas la France qui a fait le plus grand impulsion.
Anne-Sophie voudrait répondre et ensuite Jean-Hervé.
Par rapport à l'Italie, mon chiffre, c'était le chiffre de 2025 pour le solde primaire. Donc, on ne parlait pas des mêmes choses.
Oui, mais on pouvait faire.
On parlait d'une prévision.
Vous pouvez faire une erreur de prévision. Vous êtes d'accord? Prenons les chiffres d'aujourd'hui.
Oui,
la prévision 2025.
Ce que je disais, c'était le chiffre en 2025. Donc,
ah non, mais
pas
les chiffres
une
que vous prévoyez.
Voilà.
Que vous prévoyez. Ah oui, mais oui.
La prévision.
La prévision qui est sans doute fausse.
Jean-Hervé.
Peut-être. On ne peut pas dire que ça sera comme ça.
Peut-être pour.
Je ne suis pas la seule à le dire.
Dans cette affaire, l'économie, c'est une question beaucoup de confiance. On l'a vu pour la jeunesse, on l'a vu pour tous les sujets. Et c'est vrai que le discours qui est quand même sous-jacent à cette opération, c'est les déficits publics, on en a toujours beaucoup eu. On va devenir vertueux, tout le monde veut devenir vertueux. Mais la réalité, c'est est-ce que j'en ai pour mon argent? Et comme le discours est très négatif sur la formation, l'éducation et sur la santé, qui sont quand même deux choses très importantes, on a le sentiment qu'il y a un déséquilibre entre la réalité de ce qu'on paye et la réalité de ce qu'on reçoit. Je rappelle juste aux gens que quand on va à l'hôpital, toute personne qui, dans son entourage ou soi-même, a des grosses difficultés de santé, on oublie qu'on arrive, tout ça c'est gratuit. C'est veut dire, ah oui, mais enfin, c'est extraordinaire. Hein. Pas pour rien qu'il y a 12% du PIB qui sont consacrés à la santé. Sur l'éducation, c'est là où le gouvernement devrait être beaucoup plus, j'allais dire, clair dans ce qui est dit. Peut-être, il faut évidemment essayer de résorber les déficits, mais surtout essayer d'adapter et transformer, non pas ces réformes, que ce mot de réforme qui est absolument insupportable, mais essayer de transformer notre système d'éducation, lui redonner de la vie de manière positive. Or, c'est pas ça qu'on perçoit aujourd'hui. Donner, au fond, la même chose sur l'organisation même du secteur public. Peut-être demander aux collectivités locales d'investir plus dans des choses qui sont utiles, que de changer les pavés ou faire des ronds, comme vous savez, on est le champion du monde. On a l'impression qu'il y a quand même des choses à faire qui pourraient, dans un discours beaucoup plus général, pourraient en fait concilier le fait qu'on a des déficits et qu'il faut surtout pas casser la croissance, et à la fois que l'argent qui est utilisé, il est utilisé de manière la plus efficace, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui.
On va rapidement parler du droit de grève, on a juste quelques minutes. Le Sénat s'est prononcé en faveur d'un encadrement du droit de grève. Le gouvernement, on le sent bien, marche sur des œufs à l'approche des Jeux Olympiques. Est-ce que c'est une bonne idée, Anne-Sophie Alsif, au prétexte que le dialogue social est un petit peu en panne en France, d'encadrer le droit de grève ?
Alors, c'est vrai que quand on regarde les précédents Jeux Olympiques, il y a eu aussi ces mouvements-là. On s'en souvient à Londres, en Grèce également, dans certains secteurs, le ferroviaire, des services publics, également des grèves à l'approche des Jeux Olympiques, parce qu'on sait qu'il y a des impératifs de services, de travaux à finir et autres. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau ou d'une exception française qu'on est dans cette situation-là. Par contre, ce qui se passe en effet, c'est que vous avez, en France, il faut déjà le rappeler, le taux de syndicalisation en France est l'un des plus bas d'Europe. Exactement, dans le privé. Et dans le public, c'est surtout dans quelques secteurs, en effet, c'est important, et où il y a, en effet, ces négociations qui existent. Alors, pourquoi encadrer? C'est pour dire, et bien évidemment, notamment pour les Jeux Olympiques, qu'il n'y ait pas de prise en otage, entre guillemets, et qu'on arrive à avoir de la fluidité. Après, c'est un petit peu, je pense, compliqué, parce que c'est vrai que d'aller tout de suite vers cette démarche, on instaure tout de suite un bras de fer. Et, comme vous l'avez dit, on n'est pas les champions des négociations, mais peut-être que d'avoir eu en amont, cette position, un peu plus de dialogue, ça aurait peut-être pu décrisper un petit peu le débat, où là on arrive, c'est vrai, avec des partenaires dans une situation où déjà on dit attention, on va tout faire pour que vous ne passiez pas grève pendant les JO. Mais encore une fois, quand vous regardez les autres pays, et avant on a déjà eu ce genre de situation, donc c'est pas inédit.
Éric Ayer, c'est intéressant. En France, la grève, c'est devenu, en tout cas le préavis, c'est devenu un levier de négociation. On dépose un préavis pour ouvrir les négociations, alors que ça devrait plutôt arriver en bout de chaîne.
Alors, dans le public et dans certaines entreprises, parce que dans le privé, je ne crois pas que ça soit ainsi. Donc, effectivement, c'est dans le public. Bon, il y a un droit constitutionnel. On pourrait essayer de dire qu'il y a aussi un droit à partir en vacances. Moi, je serais pas hostile.
Jean-Marc Daniel n'est pas d'accord. Hein. Okay. C'est un petit peu écharpé ce matin sur la question.
Un point de désaccord. Enfin, oui, on pourrait avoir aussi un droit de retrouver sa famille pendant les vacances. Enfin, moi, je. Et comment on arrive à, essayer de maintenir ces deux droits et que l'un n'empiète pas sur l'autre. Bon, c'est compliqué. J'ai pas la solution. Effectivement, ça serait dans la concertation, ça serait dans la négociation. Aujourd'hui, on voit bien que ça ne fonctionne pas comme cela. Donc, il va falloir qu'on remette un peu ces négociations. Mais je ne crois pas que encadrer de façon dure, ça soit la solution, parce que ça va mettre plutôt le feu aux poudres. Et donc, c'est peut-être pas la meilleure façon d'aborder. Et aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement, en tout cas à certains hommes politiques, essayent de mettre un tout petit peu cette étincelle qui pourrait enflammer la société française.
Jean-Hervé Lorenzi, en Italie, il y a un certain nombre de jours qui sont sanctuarisés, des jours pendant lesquels on ne peut pas faire grève parce qu'il y a un intérêt, que ce soit économique ou lors des départs en vacances, par exemple.
Revenons chez nous, parce que si on veut y avoir avec les histoires de l'Italie. Non, moi, je crois que... tout ça est très prévisible. Je serai syndicaliste de quelque chose qui est très important pour les JO. Évidemment, je profite du moment. Or, parfois, ils sont un peu fatigants. Je veux dire, à l'époque, les pilotes d'Air France étaient quand même épouvantables. C'était
les pénis
de la République. C'était ils n'arrêtaient pas d'expliquer leur souffrance, etc. Donc, maintenant, on ne changera pas la France et les Français. C'est comme ça. Je trouve que c'est des discussions qui sont assez inutiles. Et le Sénat est aussi dans son rôle. Ils sont conservateurs, ils ont sorti. D'ailleurs, leur texte est assez prudent, hein, limité. Mmh. C'est pas plus de 7 jours. Enfin, c'est pas une déclaration de guerre.
Hein, ouais, c'est pas une remise en cause totale du droit de grève.
Tout ça est un peu de la comédie.
Allez, on va passer à votre carte blanche. Chacun, vous avez choisi un sujet que vous voulez défendre, Eric. On va commencer sur les dernières estimations du COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui indique. En fait, on va peut-être devoir passer par une autre réforme.
Oui. Alors, non, moi, ce qui m'intéressait, plus exactement, c'était, vous voyez, on a changé de président du COR, ouais. Et il y a eu.
Gilbert Sept est
arrivé. Et il y a eu des petites tensions parce qu'il veut mettre plus qu'un seul scénario sur la tendance de productivité. Et donc, en disant, voilà, ça va être 0,7. Et effectivement, la crainte, c'est qu'avec 0,7, du coup, il y aurait.
Le compte n'y est pas.
Le compte n'y serait pas. Moi, il me semble que la meilleure des réformes que l'on pourrait avoir, c'est de supprimer cette histoire de notre système de retraite dépend des tendances de productivité. Entre nous, personne aujourd'hui n'est capable de dire quelle sera la tendance de productivité du travail au cours des 20-30 prochaines années. Et penser que notre système de retraite dépend de finalement une variable qu'on ne peut pas déterminer est une catastrophe. Pourquoi notre système dépend de la tendance de productivité? Uniquement parce qu'en 1993, il y a eu une réforme, la réforme Balladur, qui a désindexé, d'accord, les retraites sur les salaires, et l'a indexé sur les prix, d'accord, alors que vous voyez, donc vous avez les dépenses qui dépendent maintenant des prix, alors que les recettes dépendent des salaires, donc de la productivité. Et donc il y a un écart, et bien sûr, plus il y a de la productivité, plus les recettes sont importantes et plus importantes que les dépenses, et donc vous allez du coup rendre votre système finalement soutenable, et moins il y en a, c'est l'inverse, d'accord. Ça, c'est pour moi la grosse erreur. On aurait dû laisser l'indexation des pensions sur la productivité et ensuite jouer sur le taux de remplacement. Vous voyez, là, aujourd'hui, on veut que le système soit rentable en baissant, finalement, la pension des retraites parce qu'elle va être moins indexée que les salaires. C'est pas tolérable. Vous voyez, il faut que les gains de productivité aillent aux actifs et aux inactifs. Et donc, il faut simplement dire, si c'est pas soutenable, c'est le taux de remplacement. Et l'assumer, dire, voilà, le taux de remplacement va être plus bas ou on travaille plus longtemps. Et donc, si j'étais Gilbert Sept, je dirais, allez, on change. La bonne réforme, c'est on réindexe et comme ça, on arrête ces discussions sur est-ce que les tendances c'est 0,7, 0,5, 1, d'accord ? Et on a un système qui est beaucoup plus visible à long terme.
Le fait d'avoir un scénario central dans le Conseil d'orientation des retraites maintenant, c'est peut-être une simplification qui était nécessaire. Jean-Hervé, tout le monde au moment du débat sur la réforme des retraites, tout le monde trouvait midi à sa porte dans le rapport du COR.
Oui, juste aussi bien les opposants que ceux qui étaient en faveur. Je suis très en accord avec ce qu'Eric vient de dire. Je trouve que, pour avoir beaucoup travaillé sur ces... participer à beaucoup de travaux sur ces sujets, je trouve que le problème du corps, le corps c'est un lieu de concertation, c'est un des rares endroits où les gens discutent entre eux, comme était le plan. Alors, Gilbert Sept est en train de déclencher une guerre nucléaire dans ce truc-là, je trouve que c'est absurde, je trouve qu'avoir plusieurs scénarios permet à tout le monde de trouver un peu sa dispositif. C'est un débat, l'histoire de la rémunération des non-actifs, enfin de la rémunération des retraites. Donc, au fond, le corps avait ce rôle-là. Je trouve que il ne devient pas le lieu de l'expertise absolue. Je n'y crois pas. Donc, je n'y crois pas. Deuxièmement, je suis d'accord avec toi sur l'idée que cette différence entre les actifs et non actifs était stupide. Et évidemment, alors j'arrive à ma carte blanche, l'affaire
sur le coût du vieillissement.
Le coût du vieillissement, très rapidement, c'est plus important que le coût de la décarbonation. Alors, c'est le grand déni de la République. On a eu une loi qui, je crois, s'appelait Bien vieillir. C'est une loi absolument inintéressante, enfin, sans intérêt, sans contenu. La réalité, c'est qu'on est en train de découvrir que le coût du vieillissement, d'abord, c'est majeur sur la croissance et sur la productivité. C'est évident que vieillir, des sociétés vieillissantes, c'est deux sociétés qui ont des croissances plus faibles, sauf à trouver de la technologie qui n'est pas encore là. Et donc, nous, notre calcul, là, je parle d'une chaire transition démographique, c'est que en 2030, alors c'est toujours une estimation, donc à prendre avec beaucoup de précautions, mais c'est 90 milliards annuels de plus. 90 milliards. L'accroissement des retraites, c'est absolument géant. La dépendance, 50 milliards. La dépendance, c'est 20 milliards. Les coûts divers et variés pour les aidants, pour tout le bins, c'est 20 milliards aussi. Alors, c'est peut-être pas 90 milliards, mais c'est absolument géant. C'est le problème majeur qui est devant nous avec la décarbonation. Et donc, il faut commencer vraiment à en discuter. Moi, je suis pour qu'on discute aussi de qui paye. Je ne suis pas opposé du tout à l'idée qu'une partie de la dépendance soit prise en charge par les retraités, par les gens qui sont concernés. Et alors, je me suis fait insulter deux ou trois fois, mais c'est un bonheur absolu, c'est que la CSG des retraités soit inférieure à la CSG normale, alors que c'est évidemment, sur les 12% de dépenses de santé du PIB, il y en a presque la moitié qui sont dédiées aux vieux, aux seniors, que la CSG soit plus faible est absurde. Donc, je suis assez pour que là, je ne sais pas si c'est l'augmentation d'impôts de ceci ou de cela, mais je suis convaincu qu'il faut rétablir une sorte de vérité, pas pour les petites retraites, pour préserver les petites retraites. Ça, c'est un problème social majeur. Mais derrière, des gens comme moi, je veux dire, je peux payer la CSG comme tout le monde. Je veux dire, c'est absurde.
Oui. Eric, vous n'avez pas l'air...
Je suis d'accord avec quasiment tout ce qu'a dit Jean-Hervé. Peut-être que le point pourquoi la CSG des seniors est plus faible, d'accord, c'était parce qu'à l'époque, il faut se souvenir, c'était un bascule, cotisation vers CSG. Donc, on avait baissé les cotisations et augmenté la CSG, d'accord. Et puisqu'on avait baissé les cotisations pour les salariés, ben, ils avaient un avantage. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu une augmentation de la CSG, alors qu'ils ne payaient pas de cotisations, les retraités. Bien donc, bien en bien gros, bien. C'était à cause de cela. Alors, que maintenant, on dise, on va demander un effort supplémentaires aux retraités, d'accord, et augmenter leur CSG.
Qui ont des bonnes retraites.
Mais bon, il y avait une logique à ce qu'il y ait une différence. On oublie parce qu'il y avait une contrepartie que n'avaient pas les retraités. Mais après, moi, je suis d'accord pour dire qu'il va falloir augmenter la CSG, sans doute. Et vous voyez, quand on a un ministre de l'économie qui fait déjà son programme en disant on préfère faire une TVA sociale, moi, je pense qu'une CSG sociale serait un peu plus intéressante qu'une TVA sociale.
Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a mis le dossier sous le tapis quand il est arrivé au pouvoir? Il voulait s'attaquer au vieillissement et au coût du vieillissement de la population?
Parce que c'est un sujet qui est très compliqué, parce que au fond, le rapport entre vieillissement que le monde entier vit et que la France va vivre apparaît comme, finalement, j'allais dire, un sujet assez insoluble. Il a fallu que l'histoire des taux de natalité émerge, pour que brutalement on commence à se dire mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est qu'une société de vieillissement. C'est une société qui est, un, qui coûte cher, parce que retraite et santé ça coûte cher, et c'est légitime. Deux, c'est une société qui est quand même pas très innovatrice, ouais, parce que c'est les garages avec les innovations, c'est pas les vieux qui y sont. Et troisième sujet, le plus important, c'est que on a besoin d'énormément d'investissements, donc beaucoup d'épargne utilisée. Or, les seniors sont averses au risque, il n'y a pas besoin d'être prix Nobel d'économie pour le savoir, et évidemment, ils sont, j'allais dire, une sorte de frein pour pouvoir investir dans le risque, donc dans le ce qui fera la croissance de demain.
On termine avec la carte blanche d'Anne-Sophie Alsif. Vous souhaitiez parler du rapport Étincelle qui a été remis à Olivia Grégoire. Le programme Étincelle, on le rappelle, c'est accompagner les PME prometteuses pour qu'elles puissent devenir des ETI.
Oui, tout à fait. Donc, c'est une étude qu'on a menée donc, au sein de notre cabinet pour essayer de voir. Alors, c'est un serpent de mer. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur ce sujet. Mais de dire, voilà, la majorité des entreprises en France, à 95%, ce sont des PME. On a beaucoup moins d'entreprises de taille intermédiaire que les Allemands ou que les Italiens. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la taille de ces entreprises? Qu'est-ce qu'on a pu voir déjà? On a pu voir qu'en France, c'est vrai que les PME donc, sont entreprises de plus petite taille. Et lorsqu'elles deviennent ETI, majoritairement, ça se fait par de la croissance externe, c'est-à-dire qu'elle rachète d'autres entreprises. Donc ce n'est pas de la croissance organique comme par exemple ce que l'on peut avoir en Italie, mais notamment en Allemagne, qui sont des pays plus industrialisés que nous.
Donc quoi, on a un passage à l'échelle qui est plus difficile en France.
Alors, plus difficile et surtout qui se fait par le fait qu'on rachète une autre boîte. Et souvent c'est plus difficile parce que les fusions ne se passent pas toujours bien au niveau de la direction, au niveau de l'organisation, et donc ça peut être compliqué sur le moyen long terme de faire encore grossir quand on est vraiment uniquement sur cette croissance organique. L'autre élément, c'est sur l'aspect familial. Vous avez beaucoup de PME qui sont familiales, et là aussi on parlait d'une aversion au risque, donc qui existe également dans les autres pays, mais où pour beaucoup de ces entreprises, le but c'est plutôt de conserver la propriété, la détention du capital, de conserver son entreprise, même si on grossit, on va dire, moins rapidement. En tout cas, on est dans une logique de déjà conserver un petit peu le patrimoine familial. Donc, c'est des choses qu'on a pu mettre en avant. Et là, c'est vrai que dans cette étude, l'idée de dire, c'est qu'on va avoir, et donc il y a la promotion qui a été mise en avant donc, de ces entreprises-là, et par rapport à leurs particularités, à leurs critères, qu'est-ce qu'on peut faire, notamment au niveau du gouvernement, parce que c'est vraiment un engagement, pour les faire croître. L'autre élément, c'est vraiment l'export. Comme on est un pays qui est désindustrialisé, malheureusement, notamment par l'Allemagne et l'Italie, eh bien forcément, on a un nombre d'entreprises qui va à l'export qui est moins important. Et même quand on y va, on a moins de solidarité entre les donneurs d'heures et les sous-traitants, notamment en termes de fixation des prix. Et donc, c'est beaucoup plus difficile dans certains secteurs. On le voit quand les Français vont à l'international, par rapport aux Italiens, mais surtout aux Allemands, le prix n'est pas la seule question, alors que dans beaucoup de nos secteurs, en tout cas en France, c'est le cas. Et donc, pour beaucoup de ces entreprises, pour aller à l'international et donc avoir une taille critique, là aussi, c'est un coût qui est important. Donc, voilà, c'est un petit peu ce bilan-là, et d'avoir des actions mises en place par le gouvernement pour faciliter ça. Encore une fois, c'est un constat qui était assez connu, mais c'est bien de montrer la démarche et voir comment on peut améliorer cette situation.
Rapport remis donc à Olivier Grégoire, peut-être une réaction rapide, Eric Ayer.
Non, mais oui, alors c'est vrai que c'est une question qui est pas nouvelle, effectivement, comment on arrive à avoir un tissu productif qui pourrait aller à l'export. Moi, je crois que globalement, enfin, alors après, c'est ma casquette plutôt de macroéconomiste, aujourd'hui, vous voyez, il y a peut-être un sujet européen. L'Europe est excédentaire, trop largement excédentaire, à des excédents commerciaux qui dépassent les 3 points de PIB depuis 2009. D'accord ? Donc ça fait plus de 10 ans qu'on est en excédent gigantesque. Pourquoi on est en excédent ? Parce que tous les pays, à part la France, sont en excédent. On ne peut pas, et ça je pense que c'est quand même un message qu'il faut faire passer, on ne peut pas tous être excédentaires. Et donc, les excédents européens, en fait, c'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre, et on le retrouve, du coup, en déficit aux États-Unis, au Royaume-Uni, et donc on entre dans une guerre commerciale. Aujourd'hui, globalement, il y a une guerre commerciale, c'est à cause de l'Europe, qui est trop excédentaire. Et vous voyez, aujourd'hui, l'euro devrait être à 1,35 et il est à 1,09. Donc globalement, vous voyez, c'est vrai que c'est bien de se dire nous, comment on peut faire pour regagner des parts de marché et être excédentaire? La question qu'on doit se poser, c'est sur qui on va gagner? Sur qui on va gagner? Parce que c'est un jeu à somme nulle. Et aujourd'hui, plus personne ne va être en déficit. Et ça, c'est un vrai souci. Et donc, peut-être faut aussi regarder du côté de l'Allemagne, du côté des Pays-Bas, qui sont à 6, 7, 8 points d'excédent de façon structurelle. On ne peut pas rester avec ces excédents structurels. C'est un déséquilibre.
Avec la conséquence que l'épargne excédentaire de notre pays et de la zone euro, au lieu de se réinvestir en Europe, ce qui serait quand même très nécessaire, parce qu'il y a vraiment besoin d'investissement, va soutenir les déficits américains. Donc, on a quand même un problème de notre position, et notamment de l'Allemagne et des Pays-Bas.
Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Anne-Sophie Alsif, chef économiste du cabinet d'audit BDO France. Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes, président des rencontres économiques d'Aix.
5, 6, 7 juillet, avec beaucoup de jeunesse.
Avec beaucoup de jeunesse, on l'a bien compris. Et puis Eric Ayer, merci beaucoup, directeur du département.
C'est l'expression la plus évidente.
Directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. À suivre, Tout pour investir, Lorraine Goumeau.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.